au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Le Guay.
Père Chantraine, nous vous recevons aujourd'hui à Canal Academy avec grande joie pour le premier tome de ce livre, de cette biographie en 4 volumes, Henri de Lubac, de la naissance à la mobilisation.
Merci beaucoup.
Vous rappelez, Père Chantraine, ce propos de René Raymond, qui est académicien, qui dit « Que viennent à disparaître un cinéaste, un chanteur de variété, le ministre de la Culture s'empresse de lui rendre un hommage appuyé. Il n'y eut rien de tel pour la disparition du cardinal de Lubac ou du père Congar, comme si leurs travaux n'avaient pas enrichi la pensée. » Ce silence officiel lors de la mort du cardinal de Lubac le 4 septembre 1991 est tout ce qu'il y a de plus regrettable. Et on ne peut que constater que le père de Lubac fut un grand éclaireur, un grand intellectuel en ce qui concerne à la fois l'homme, mais aussi des questions religieuses. Il fut une conscience pour les hommes, une conscience pour les hommes dans leur rapport avec Dieu, et une conscience intellectuelle et morale. Qui fut-il ? Il est né en 1896, il devint prêtre en 1927 et jésuite en 1931, et en 1929, il occupe la chaire de théologie fondamentale de la faculté catholique de Lyon, et débute alors la publication de ses principaux ouvrages, Catholicisme en 1938, Drame de l'athéisme athée en 1944, Surnaturel en 1946. Dans les années 50, il connaît une certaine traversée du désert pour un soupçon d'erreur théologique, soupçon bien évidemment infondé, et qui fait suite à l'affaire de Fourrières dont vous parlerez dans les tomes successeurs de cette biographie. À la fin des années 50, le climat avec la mort de Pie XII change. Le 10 novembre 1958, il est élu à l'Académie des sciences morales et politiques. En août 1960, il est nommé expert théologique dans la commission préparatoire de Vatican II et il sera, après coup, nommé expert au Concile. Dès lors, il aura sa place au Vatican, au secrétariat pour les non-croyants et membre de la première commission théologique internationale. Il expliquera Vatican II dans un certain nombre de conférences et un certain nombre de livres, dont Révélation divine 1968 et puis dans Athéisme et sciences de l'homme et sciences de l'homme en 1968. 67. Il publie aussi un certain nombre de livres, 6, pour défendre son ami le père Teilhard de Chardin. Et le 2 février 1983, il est créé cardinal par Jean-Paul II, avec lequel il s'était lié d'amitié au moment de Vatican II. Il meurt donc le 4 septembre 1991. Il fut aussi éditeur, fondateur en 1975 de la revue Communio et surtout auteur. Quant à vous, Père Chantraine, vous êtes jésuite, professeur émérite de la faculté de théologie jésuite de Bruxelles. Et depuis la mort du père de Lubac, vous vous consacrez au mieux à faire connaître sa vie et son œuvre. En 1983, vous avez fait la première ou une première synthèse biographique du cardinal de Lubac, donc dans ce livre qui s'appelle « Cardinal de Lubac », avec comme autre auteur le père de Balthazar. Et depuis lors, vous êtes président de l'Association internationale cardinal de Lubac qui a été créée en 1994. Et pour faire rayonner, pour faire mieux connaître cette œuvre, vous entreprenez 2 chantiers que l'on peut considérer comme pharaonesques, si ce n'est titanesques plutôt. Vous vous occupez donc avec Jacques Prévotat, entre autres, de la publication des œuvres complètes du cardinal de Lubac aux éditions du Cerf, avec 50 volumes qui sont annoncés. Et depuis 1996, en accord avec votre provincial, vous vous êtes attelé à la tâche qui est aussi pharaonique, de la rédaction d'une biographie scientifique du cardinal, et vient de paraître, c'est pour ça que nous nous rencontrons aujourd'hui, le premier tome donc, qui couvre les années 1896 à 1919. Et ce premier tome, je le dis pour les lecteurs qui j'espère seront nombreux, fait déjà 670 pages, sans compter les annexes. Donc votre projet est en 4 parties. Premier volume 96-1919, deuxième 19-29, troisième 29-60 et quatrième 60-91. Débutons, si vous le voulez bien, par une question plus personnelle. Vous êtes jésuite, vous êtes né 36 ans après le père de Lubac. Vous avez connu le père de Lubac à partir de 1961, soit pendant 30 ans. Et Jacques Prévotat dit de lui qu'il était timide, pudique, refusant le brio, s'affirmant peu doué pour l'oral. Pouvez-vous nous faire un portrait humain du père de Lubac et aussi des relations que vous avez pu avoir avec lui ?
Je commencerai par la relation que j'ai eue avec lui.
J'étais étudiant à l'Université catholique de Louvain en histoire et je ne parvenais pas à boucler le mémoire de licence parce que je ne voyais pas comment l'historien pouvait traiter l'histoire. Je voyais bien les limites du travail historique, je n'en faisais pas grief aux historiens, et je me disais, mais quel rapport ce que les historiens racontent, cela a-t-il avec l'histoire elle-même? Et alors, au début de ma théologie, en 1960, un peu avant la Noël, j'ai lu, je ne sais plus pourquoi, le premier volume de l'exégèse médiévale du Père de Lubac, et là, le chapitre 5, qui a pour titre le Nouveau Testament, m'a illuminé au sens le plus strict du mot. Et cette difficulté s'est trouvée résolue, j'ai vu que c'était l'Esprit Saint qui faisait l'histoire et qui la racontait lui-même. Et j'ai écrit au Père de Lubac en le remerciant de ce qu'il m'avait apporté. Il était à ce moment-là, comme vous venez de le rappeler, expert de la commission préparatoire du Concile, et j'ai eu la surprise de recevoir un mot de réponse. Alors je me disais, je suis un petit théologien, jamais ne me répondra, mais si, il m'a répondu. J'ai pris à peu près toute une séance d'un cours pour lire son écriture, parce qu'il écrivait très vite et très mal aux lettres qu'il envoyait, alors qu'il avait une écriture tout à fait remarquable. Un photocopieur disait à une de ses nièces, « Mais ce type-là, il écrit drôlement bien, n'est-ce pas ?» Alors nous sommes restés en relation. Il est venu en 64, là où je faisais ma théologie. C'est lui qui, en 73-76, ensuite, m'a confié ses papiers pour que le ministre de la Maison ne les détruise pas. C'était un risque possible. Uh-huh. Et c'est ainsi que je me suis trouvé lié à lui, parce qu'il m'a toujours éclairé. Et j'en viens ici au portrait.
Oui, oui.
Il y avait au fond deux choses qui m'impressionnaient, qui m'impressionnent toujours. C'était d'abord sa douceur. Aussi bien dans le contact personnel que dans la manière dont il écrit, il est très doux. Et par là même, il éclaire les choses de l'intérieur. Et puis la deuxième chose, c'était le regard. Le pasteur Bögner le remarque ça, il avait un regard lumineux, des yeux bleus qui montraient ce qu'il contemplait, car c'est un contemplatif. Plus qu'un théologien, c'est d'abord un contemplatif. Il avait une sœur, sa sœur aînée, Louise, qui est morte carmélite. Et je crois que l'un et l'autre avaient le sens de Dieu, de sa grandeur. Il n'a jamais rien dit sur sa relation avec Dieu. On peut parler un peu de sa vocation, parce que il y a trois textes qui nous permettent de cerner un peu quelle était cette vocation qui venait de Dieu. Voilà les choses qui me paraissent remarquables chez lui.
Mais il y a deux choses qui ont l'air assez exceptionnelles pour un homme comme lui. Premièrement, tous ceux qui l'ont rencontré disent la même chose, c'est-à-dire que quand on lui écrivait, il répondait. Pour un homme aussi occupé, d'une part, et qui travaillait autant, cette capacité d'accueil et de réponse semble assez exceptionnelle.
Oui, tout à fait. C'est une des raisons pour lesquelles le docteur rencontra un provincial de France, lorsque le père de Lubac était devenu vieux, il était cardinal même peut-être à ce moment-là, a dit « Vous devez lui donner un secrétaire, parce que cet homme se fait un devoir de répondre à toutes les lettres qu'il reçoit. » Et de fait, père de Lubac m'a dit « Même une lettre d'injure, je réponds toujours. »
Et la deuxième chose, c'est qu'on a l'impression qu'il ne se plaignait jamais. Au sens où, effectivement, alors peut-être que ça a changé, mais au sens où il a traversé, puis on a dit un mot, mais ça sera l'occasion pour un tome ultérieur de parler de l'affaire de Fourvière, mais toutes les oppositions qu'il a pu rencontrer à l'intérieur de l'Église et qui ont commencé très tôt, enfin, disons après la Seconde Guerre mondiale, quand il a lancé son livre et sa recherche sur le surnaturel, mais que de tout cela, il l'assumait en lui-même, il le prenait sur lui sans jamais se plaindre. Est-ce que dans les rapports personnels que vous aviez avec lui, c'était aussi le cas?
Non, précisément là, il faut vraiment distinguer ce qu'il disait en public et ce qu'il disait à des personnes dans lesquelles il avait confiance. Alors là, il laissait son cœur s'ouvrir. Dans le deuxième volume, si un jour vous m'interrogez, on pourra parler de ses lettres au père Robert Hamel, qui était son ami de cœur. Et alors là, il ouvrait son cœur et il pouvait dire à quel point il souffrait, parce qu'il a beaucoup souffert du traumatisme à l'oreille gauche qui résulte d'une blessure du 1er novembre 1917. Et alors il disait tout. Et de même à ses supérieurs, du moins quand il avait une entière confiance dans les supérieurs, il ouvrait, on voit ça avec le père Ravier, on a sa correspondance avec le père André Ravier, qui était son provincial au moment des affaires pénibles résultant des difficultés que le surnaturel lui ont provoquées. Alors il était extrêmement ouvert. Mais il fallait qu'il sente la présence de Dieu, sinon il ne disait pas grand-chose.
Comment est-ce que vous pourriez, avant que nous parlions du tome qui nous réunit aujourd'hui, comment est-ce que vous pourriez, en deux mots ou en trois mots, enfin, c'est un effort de synthèse surhumain que je vous demande, mais pour ceux qui n'auraient jamais lu Le Père de Lubac, comment est-ce que vous pourriez résumer, indiquer, enfin, quelles sont les intuitions centrales de son œuvre? Vous dites-vous, quel est le cœur de son œuvre qui apparaît avec 50 volumes, et encore 50 volumes, ce n'est pas 50 livres, parce qu'il y en a plus, enfin, il y en a beaucoup plus derrière, pour Le Père de Lubac?
Mais je dirais, au fond, deux choses, ou j'emploierais deux expressions. La première, qui est déterminante, c'est la relation avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il a parlé du surnaturel. Et la deuxième, vous venez de citer le mot, c'est que cette relation avec Dieu est de nature ou d'essence, si vous voulez, catholique. Catholique dans deux, pas dans le sens confessionnel, n'est-ce pas? Mais parce que si je puis dire, à la suite de Balthazar, du reste, parce que Dieu lui-même est catholique. Et deuxièmement, parce que cette relation de l'homme avec Dieu se manifeste dans l'Église elle-même, l'Église catholique. Et de nouveau, c'est pas l'Église romaine, n'est-ce pas, mais l'Église telle que le Christ l'a constituée.
Très bien. Père Chantraine, je crois que nous allons faire une petite pause, et puis nous reprendrons après une petite page musicale. Donc, Père Chantraine, nous reprenons notre conversation sur le Père de Lubac. Il y a une chose dans le style du Père de Lubac qui est assez extraordinaire. D'une part, son style n'est pas philosophique, il est plutôt, disons, littéraire, et il est plutôt français, avec une clarté qui est tout à fait française. Vous dites, poète de cœur, il aime les phrases équilibrées, charpentées, aux articulations exactes. Et puis la deuxième chose qui est assez étonnante et même séduisante quand on le lit, c'est qu'il n'a rien de conceptuel. Ce n'est pas un auteur de système, ce n'est pas un philosophe de ce point de vue-là. Il est cohérent sans être systématique. Qu'est-ce que vous diriez, vous qui êtes entré dans la cuisine, enfin, de son œuvre, que diriez-vous de son style? Et puis, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la façon avec laquelle il travaillait?
Oui, ce sont deux questions différentes, ça. Le style et puis.
Alors, commençons par le style, si vous voulez.
Le style, oui.
D'où tenait-il son inspiration? Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, il y a un côté un peu pascalien, enfin, ou quelque chose d'un peu, voilà, très français.
Oui, c'est pascalien. C'est sans doute l'auteur avec lequel, avec Péguy et Claudel de notre père, il est le plus proche, dont il est le plus proche. Mais avec Pascal, on aborde aussi un côté proprement intellectuel de sa pensée, à savoir le paradoxe. Dès qu'il commence, ça je le montrerai dans le deuxième volume, dès qu'il commence sa formation littéraire, il lit Pascal, et c'est à ce moment-là que l'idée des paradoxes lui est en tête et qu'il construira toujours sa pensée de manière paradoxale. C'est le premier point, mais paradoxe chez lui est toujours lié à un mystère. Le paradoxe n'est pas la limite insurmontable de l'homme, un peu comme chez Kierkegaard, n'est-ce pas? Le paradoxe, c'est la manière dont un homme perçoit le mystère et dont il perçoit la limite dans laquelle il perçoit le mystère. Le mystère est toujours au-delà de ce qu'il veut dire. Et s'il parle de manière paradoxale, c'est précisément pour laisser apparaître le mystère qu'il contemple. Alors, il est, de ce point de vue-là, il faut, comment dirais-je, lorsqu'on le lit, on est toujours séduit par la beauté de la langue. Mais elle est extrêmement précise, cette langue, et plus conceptuelle qu'elle n'en donne l'apparence. Parce que je vois ça surtout dans ses écrits de 1920, 23, 24, 25, et encore en théologie, jusqu'en 29. C'est un homme qui s'est donné une philosophie tout à fait personnelle, qui est inspirée par Blondel et par saint Thomas, contrairement à ce que certains dominicains ont pu penser. Mais
c'est qu'il était plus thomiste que les thomistes.
Peut-être, oui. Voilà. Mais alors, vu que, et c'est en ça que vous avez raison, vu que ce qui est premier chez lui, c'est le mystère, le concept ne prend jamais une allure systématique. Ça, c'est une chose importante, d'où il y a une sorte, dans le style, une fluidité qui vient de ce qu'il aime, la belle langue. C'est un poète du point de vue stylistique.
Oui, absolument.
Et puis, ça vient de sa contemplation aussi, je crois. C'est un homme qui contemple Dieu et qui donc ne veut jamais imposer à Dieu la conception que nous pouvons avoir de lui, même s'il faut se servir des concepts pour le dire.
Et sur le style, est-ce que les manuscrits sont extrêmement travaillés, repris deux fois, trois fois, quatre fois, ou est-ce que la lisibilité, enfin la clarté de son exposition lui venait naturellement? Et je précise pour ceux qui n'ont pas lu Le Père de Lubac qu'il avait le défaut et ou la qualité d'être extrêmement précis dans des notes en bas de page qui ne retirent rien de la clarté du texte lui-même, mais qui effectivement suppose dans son travail intellectuel lui-même de faire des parenthèses ou des renvois ou de voilà.
Je vais vous donner trois réponses. La première, c'est la sienne. où il m'a dit souvent qu'il avait de la peine à écrire. Le deuxième est un témoignage d'un de mes confrères, le père Hénaud, qui était à Fleur des Neiges, tout près de Saint-Gervais, dans Savoie. Et c'est lui qui a reçu la dictée que le père de Lubac lui a faite en réponse au père Combe qui attaquait Théière. Et le père Hénaud me dit, ça lui venait comme ça, l'article est rédigé d'une traite, parce que le père de Lubin avait tout dans sa tête. Donc ça, c'est la version du père Hénaud, qui, quand même, a une puissance d'attestation, puisqu'il recevait la dictée du père de Lubin. Et la troisième chose, c'est que, d'après ce que j'ai pu constater, il revoyait ses manuscrits. Alors, souvent, il corrigeait assez peu ce qu'il avait d'abord écrit, mais il ajoutait des choses. Méditation sur l'Église est un bon exemple de ce point-là. Les œuvres s'amplifient. Alors, voilà comment il écrivait, je crois. Ça, c'est pour le style.
Oui. Et alors, pour le travail, donc, vous qui êtes de cette façon de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté des livres, là où les livres se font, est-ce qu'il avait, comme on croit le savoir, des dossiers, des sous-dossiers? Comment est-ce qu'il travaillait? Parce que pour faire tout ce qu'il a pu faire tout seul, sans être aidé particulièrement, j'imagine, par un secrétaire ou je ne sais quoi.
Oui, jusqu'en 71, je crois qu'il n'avait personne.
Voilà.
Ou par là, en tous les cas, oui.
Comment faisait-il pour accumuler autant à la fois de références, de documentation, de clarté, sur tous ces sujets traités?
C'était un homme intuitif, c'est la première chose qu'il faut dire. Et alors, très vite, il percevait ce qu'il pouvait dire. Le père Xavier Léon Dufour, qui vient de mourir, me racontait qu'il avait été demandé au père de Lubin comment lire Saint-Augustin. Alors, le père de Lubac lui a dit « lisez ceci, ceci, ceci », et puis, l'ayant fait, le père Xavier Léon Dufour m'a trouvé le père de Lubac en disant « j'ai tout lu, qu'est-ce que je dois lire ?» Eh bien, lisez ce qui vous plaît, et laissez-vous porter par la pensée même de Saint-Augustin. Et je crois que c'est ainsi qu'il faisait. Il avait du flair, et il se laissait instruire, c'était la première chose. Donc très vite, il avait une intuition, on voit bien pour Pic de la Mirandole, c'est un livre qu'il a composé pendant 25 ans. Pic est devenu son ami, et donc, je vais l'étudier. Bon, c'est la première chose. Et alors, très vite, il a un plan. Et puis, il fait des dossiers. Et c'est un fuyeur. C'est le table, si vous voulez. Alors, il lit tout ce qu'il peut trouver sur le surnaturel, c'est très clair. Dès sa philosophie, vers 1920-22, par là, c'est la relation avec Dieu et le surnaturel. Et puis, en théologie, avec le père Ubi, il se dit, je vais étudier ce sujet-là plus à fond. Il commence à faire des dossiers.
Mais ce qui veut dire qu'il travaillait d'une certaine façon sur 4 ou 5 livres en même temps?
Ah oui, certainement.
C'est ça?
Ah oui, sans aucun doute ça. Oui, oui.
Et que donc ils ressortent, mais ils ressortent avec une date de naissance qui est peut-être de 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Ah oui, tout à fait.
Préalablement.
Oui. De ce point de vue-là, il avait cet homme intuitif, avait une patience, il était très méthodique aussi, il ne voulait rien étudier, qu'il l'ait étudié jusque dans le dernier détail, au moins pour ce qu'il pouvait trouver en langue française, puisqu'il dit qu'il ne connaissait pas l'anglais, l'italien, l'allemand. En réalité, il lisait l'anglais. En réalité, il lisait l'italien aussi. L'allemand, plus qu'il ne l'a dit. Mais alors, pour être précis, il se faisait traduire par d'autres, notamment des scolastiques de langue allemande.
Pour en terminer sur ce portrait général du père de Lubac, avant que de parler de votre livre et donc des premières années du père de Lubac, on est toujours impressionné par à la fois la douce détermination, si on veut, du père de Lubac, qui s'est opposé, sans le vouloir sans doute, mais qui s'est opposé toute sa vie durant à beaucoup de puissance ou à beaucoup d'intérêts au sein de l'Église, avec des positions qui ont été reconnues, disons, par la suite, comme étant de bonne position. Mais il avait une capacité assez extraordinaire, d'une certaine façon, à pouvoir étudier des points qui font mal. Enfin, voilà. Et donc, tout ce qu'il a fait sur ce naturel, sa défense du père Théière, etc., etc., enfin, on peut accumuler comme ça un certain nombre de...
Ouais,
il s'en prenait, je ne dis pas volontairement, mais il s'en prenait avec une forme de douceur, mais une douceur obstinée. De douceur obstinée, voilà. Il s'en prenait à des enjeux qui étaient des enjeux où il savait, j'imagine, clairement, qu'il allait avoir des oppositions extrêmement fortes. Alors, comment vous expliquez à la fois cette obstination intellectuelle, cette justesse de vision qui est la sienne et cette douceur de tempérament? Parce que c'était pas un furieux, comme on dit. Enfin,
non, pas du tout. Comment dirais-je? Les œuvres principales ne viennent jamais d'une opposition. Elles viennent toujours d'une perception de la vérité catholique. J'emploie toujours le mot catholique comme je l'ai fait jusqu'à présent. Alors pour le surnaturel, c'est clair. Pour l'Église, c'est l'évidence même. aussi bien catholicisme que méditation sur l'Église, c'est d'abord parce qu'il y a une réalité de l'Église qui souvent n'était pas exprimée par les manuels de l'époque. Pour Teilhard, c'est la même chose. Ce qu'il a perçu, c'est le génie aussi bien spirituel que scientifique de son confrère. Et c'est cela qu'il a voulu montrer avec une puissance de démonstration précisément qui était remarquable. Deuxièmement, d'une certaine manière, une fois qu'il voyait clairement quelle était la position catholique et qu'à l'aide de 1000 textes qu'il avait lus, il pouvait montrer, oui, c'est vraiment ça que les pères, les grands médiévaux ou des auteurs modernes comme Piggy ou Claudel ou d'autres ont montré, alors il le disait simplement et il y avait une certaine naïveté de son côté. Je crois qu'il ne se doutait pas que l'opposition allait être aussi radicale.
Ah oui.
Pour le surnaturel, ça me paraît évident. Il voyait bien qu'il ne disait pas la même chose que ceux qu'on appelle « thomistes », entre guillemets, mais il ne pensait pas qu'il y aurait eu un tel acharnement contre lui de la part de jésuites, de dominicains et de non-religieux. Alors ça l'a fait très souffrir, certainement, parce qu'il ne se représentait pas. Et alors, il était, sur ce point-là, plus déterminé qu'obstiné, n'est-ce pas ? Le père Ravier disait qu'il n'avait pas suffisamment d'esprit sportif, n'est-ce pas ? Que la bagarre, bon, ben, il faut la supporter plus allègrement qu'il ne faisait. Il était très meurtri. Mm-hmm. C'était un homme extrêmement sensible. Alors, il était très meurtri par ce qu'on pouvait de lui, et surtout par les mensonges qu'on racontait, parce que souvent, on lui faisait dire des choses qu'il n'avait pas écrites. Alors, le mensonge, c'était un homme fidèle, vrai, et le mensonge le laissait sans armes.
Ben on souhaite même si, dites-vous, les archives jésuites ne sont pas accessibles encore en ce qui concerne l'affaire de Fourvière, enfin, que une bonne fois pour toutes, effectivement, que la clarté puisse être faite sur cette chose-là, qui l'a beaucoup meurtri et qui l'a beaucoup pénalisé pendant longtemps, parce qu'il a été mis un peu de côté, enfin, jusqu'à ce que Vatican II, de cette façon, vienne réhabiliter à la fois ce qu'il avait fait, et puis à la fois les intuitions qui avaient été les siennes. Donc espérons effectivement que dans le volume suivant, vous puissiez mieux expliciter ou expliquer à vos lecteurs les éléments déterminants de cette affaire, ou de ces affaires, enfin de cette nouvelle théologie, entre guillemets, enfin, qui n'avait rien de
nouveau,
de neuf, disait le père de Lubac, enfin voilà, pour mieux comprendre effectivement cette...
J'espère qu'on me laissera la liberté de le faire, parce que ça ne plaira pas à tout le monde non plus.
Ben, on vous le souhaite, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup, c'est ce qu'il disait, de procès en procès, enfin, de condamnation sans procès. Enfin, voilà, il se plaint lui-même, et à juste titre, de n'avoir jamais été entendu sur le fond. Voilà, et que tout le monde en est resté un peu à ce que la vulgate de vos confrères jésuites, enfin, et eux et d'autres aussi ont pu raconter, on peut raconter sur lui. Mais venons-en, si vous voulez, à ce premier volume, enfin, qui est la raison de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, premier volume, je rappelle, 1896-1919. Donc, au cours de ce premier volume, d'une certaine façon, il ne se passe pas grand-chose. On suit l'histoire d'un homme plutôt ordinaire, enfin. Et pourtant, on a l'impression que en filigrane de tout cela, se met en place tous les éléments à la fois de son tempérament et à la fois de ses œuvres ultérieures. Études primaires à Bourg-en-Bresse, puis à Lyon. Études secondaires dans le collège jésuite de Montgré, près de Villefranche-sur-Saône. Études de droit en 1912 et 1913 à Lyon. Noviciat jésuite à Saint-Léonard, et puis mobilisation pendant 4 ans et demi, c'est-à-dire un an aussi après la fin de la guerre, d'avril 1915 à 1919, donc pour la guerre, et après, comme vous le disiez, 1er novembre 1917, blessure à l'oreille interne qui le fera souffrir pendant toute sa vie. La question que l'on peut se poser, et sur laquelle on aimerait avoir quelques éclaircissements de votre part, c'est: que dire de son héritage familial ? On peut dire que, d'une certaine façon, le père de Lubac est, voilà, Henri de Lubac plutôt, est né catholique.
Sans aucun doute.
Voilà. Alors quelle a été l'influence dans sa vocation, enfin, ou dans son parcours religieux, de son héritage familial ?
Comme il le dit, il le répète pendant sa correspondance de guerre, et puis quand il est retourné au noviciat et qu'il a fait ses vœux le 4 avril 1920, jour de Pâques. D'une certaine manière, il doit tout à ses parents. Alors, qu'est-ce qu'il doit ? D'abord, une profonde affection, une famille unie. Son papa et sa maman ne se sont jamais disputés, atteste sa maman. Une famille unie avec ses frères également et sœurs. Une famille aussi qui connaît l'exigence de la vie. C'est une éducation sévère. C'est la première chose que je dirais pour la famille. Deuxièmement, une pratique religieuse. Le papa faisait la prière le soir. Ils étaient à genoux, il y avait un examen de conscience. On faisait une prière à la Sainte Vierge. Certainement qu'il y avait une dévotion au Sacré-Cœur, comme c'est un deuxième élément. Un troisième élément qui est déterminant pour la suite de ça, enfin, les autres sont déterminants aussi, mais qu'il type, c'est que cet homme, Maurice de Lubac, son père comme sa mère, Gabriel de Bourpère, était des légitimistes. Et quand Léon XIII a demandé de se rallier à la République, le papa, le père, Maurice de Lubac, s'est rallié. Et donc ces légitimistes sont devenus des républicains. Ça n'a pas empêché le père de Lubac d'être parfois très critique à l'égard de la République, comme je le montre dans ce livre-là. Mais il ne sera pas maurrassien. Et ça, c'est une grande différence par rapport à beaucoup de catholiques et à un certain nombre de ses confrères, dont le père Décaux, qui lui donnera la métaphysique quand il sera en philosophie.
Alors vous dites, le jeune Henri de Lubac semblait né pour être de l'Action française, il ne le fut pas.
Il ne le fut pas.
Voilà. Exactement. Et justement, quelles sont les raisons de cet évitement, d'une certaine façon, parce que tout le monde sait le ralliement massif des catholiques à l'Action française.
La fidélité au pape. Simplement la fidélité au pape, ce sont des chrétiens de souche, si vous voulez. Le pape l'a dit, alors on se rallie à ce que le pape veut, quoi que les évêques aient pu penser, parce que tous n'étaient pas aussi ralliés que le pape le souhaitait.
Donc c'est à la fois pour ce ralliement qui est à la fois familial et personnel, pour le père de Lubac très tôt, pour Henri de Lubac très tôt, à la fois donc ce ralliement à la République, et à la fois... on le verra par la suite, mais plutôt un catholicisme social.
Ça, c'est l'autre élément que je voulais dire.
Qu'un catholicisme institutionnel de type Maurras, qui était, faut-il le rappeler, athée.
Catholicisme social dans deux sens différents. D'abord parce que les milieux qui fréquentaient sa famille, et notamment M. Hyacinthe Caillard-Bancel, s'occupaient beaucoup de choses sociales, de même qu'Albert Demain. Et puis deuxièmement, lorsqu'il a été à l'université, le père de Lubac s'est intéressé à ce qui allait devenir la revue de l'Action sociale, n'est-ce pas? Donc il a connu le père de Lubac et le père Leroy, et il s'est intéressé à la vie sociale telle que les jésuites l'a développée à ce moment-là.
On va en reparler si vous voulez, mais il y a une chose qui m'a tout à fait intéressé dans votre livre. Il y a une affaire de Lubac que nous connaissons, qui est celle, de moment de Fourvière. Mais il y en a une autre que je ne connaissais pas, qui est celle de 1880, quand effectivement, dans ce qui est symptomatique, me semble-t-il, de l'engagement quand même du père d'Henri de Lubac. En 1880, le père d'Henri de Lubac s'est opposé manu militari, a participé de manière ou d'une autre à l'expulsion des Capucins à Lyon. Et donc a été sanctionné, a été jugé. Et ça a beaucoup eu d'influence. Alors, comment est-ce que vous voyez cette influence du père d'Henri de Lubac qui s'est engagé véritablement contre la République quand celle-ci a fait l'inventaire de la totalité des biens...
Quand on expulsait les Capucins, les Dominicains, les Jésuites, etc.
En
80, oui. Je crois que c'était la réaction d'un bon catholique qui voulait protéger les prêtres et ceux que la République... Là, c'est plutôt le légitimiste, à mon avis, qui jouait, n'est-ce pas? Et le père de Lubac est né à Cambrai à cause de cette affaire-là, parce que la Banque de France, en acceptant le père Maurice de Lubac comme employé, n'a pas voulu qu'il trouve son siège à Lyon, mais l'envoyé d'abord à Verdun, puis à Lille, et finalement à Cambrai, où le père de Lubac est né.
Mais est-ce que vous avez l'impression que dans sa famille, très tôt, donc là on parle d'un jeune homme jusqu'à ses 23 ans, qui avait un ralliement à la République, mais une forme de ralliement vigilant, même un peu, avec quelques récriminations contre la politique anglicane, anticléricale, enfin telle qu'elle a pris, telle qu'elle a pu se développer avec le Percon, mais avant.
Oui, certainement, sans aucun doute ça. Il était plus doux pour la politique extérieure de la France que pour la politique intérieure, qu'il trouvait d'abord mal faite, et puis trop anticléricale. Un de ses premiers écrits dans le bulletin de la société Brunetière a été sur l'esprit laïque, n'est-ce pas ? Qu'il assimile à la bêtise, simplement. Mmh. C'est le mot que le jeune emploie.
Alors venons-en, si vous le voulez bien, à sa vocation. Alors le père Tillette dit du père de Lubac qu'il a volontairement rendu banal sa vocation à la théologie. Et dans ce livre-là, où naît sa vocation, durant ces années-là, le père de Lubac fait plutôt silence sur cette vocation. Alors, est-ce que vous diriez que cette vocation est naturelle, qu'elle est évidente, qu'elle est simple, qu'elle est réactive? Enfin, il n'y a pas de chemin de Damas. Le Seigneur ne lui est pas tombé dessus à un moment donné. Donc, comment est-ce que vous voyez naître cette vocation chez lui qui n'apparaît pas dans votre biographie, donc qui n'apparaissait pas, j'imagine, dans ce que lui a pu en dire?
Oui. D'abord, elle n'est pas du tout en réaction. C'est un homme qui, très jeune, a perçu les choses avec les choses de la vie courante, avec une grande pudeur. Ça veut dire qu'il s'est laissé impressionner et qu'il avait une mémoire extrêmement vive de tout ce qu'il voyait. Mmh. C'est la première chose. La deuxième, dans les poésies qu'on a pu garder de lui, on peut toutes les résumer par une formule latine, abyssus abyssum vocat, l'abîme appelle l'abîme. C'est un homme qui a perçu la faiblesse de l'homme devant Dieu et qui a perçu la grandeur de Dieu infinie. Et qu'est-ce qui peut unir cet homme qui va mourir? Il médite sur la mort. Qu'est-ce qui peut unir cet homme mortel au Dieu infini? Ce sont deux choses dont il parle. C'est l'Eucharistie et la Sainte Vierge. Alors c'est par le corps du Christ et par la présence maternelle de la Vierge qu'il trouve son milieu divin, comme dirait Teilhard. Et puis alors, vous avez peut-être remarqué dans ce qu'il écrit à sa maman en décembre 1913, la manière dont il relate la retraite de 30 jours qu'il a faite. Alors il dit « Il ne faut pas 3 semaines de méditation avec le Christ pour se rendre compte qu'on n'a pas la vocation si c'était le cas. » Ce qui est une manière humoristique, car il est très pudique, n'est-ce pas, de dire « c'est évident que j'avais la vocation ». Je crois que la vocation est une réalité évidente pour lui, et c'est ce qui l'attache définitivement à la compagnie, et c'est la raison pour laquelle, lorsque les supérieurs vont être durs avec lui à partir, disons, de 50, pour faire bref, n'est-ce pas, ça lui sera extrêmement pénible. En revanche, la confiance absolue que le père Ravier, son provincial, lui fait est une source de réconfort et de paix pour lui, parce que là, la relation avec Dieu est de nouveau visible.
Père Chantal, nous allons en rester là pour ce qui concerne le père de Lubac. Nous faisons une petite pause musicale et nous reprenons dans 5 minutes. Merci. Donc nous reprenons, Père Chantraine, pour mieux comprendre ce premier tome que vous avez consacré au père de Lubac, donc qui va de 1896 à 1919. Et je voudrais voir avec vous quelles ont été les influences intellectuelles, livresques et spirituelles du père de Lubac. On en voit dans votre livre trois. Une qui est relative aux premières lectures d'Henri de Lubac, Claudel, Peggy, Dostoïevski. Une autre qui est relative au catholicisme social, qui a eu une grande influence sur lui. Et une troisième, je dirais ça presque par couche chronologique, une troisième plus théologique, celle de certains jésuites autour du père Léon de Grandmaison. Et on a l'impression qu'en 1913, donc il a 17 ans, quand il entre au noviciat, ces trois couches sont déjà présentes en lui. Alors essayons de les reprendre successivement. Les lectures formatrices d'Henri de Lubac. Vous dites qu'à l'âge de 10 ans, Henri de Lubac a lu...
Je le cite.
Crime et châtiment. Oh. Voilà. Et effectivement, il y a donc ces lectures de Claudel et de Peggy. Alors, quelles ont été, donc, pour prendre ces différentes couches et pour voir pour l'instant cette première couche littéraire, quelle a été l'influence de cette couche littéraire, donc Claudel, Peggy, Dostoïevski. Et vous rappelez, je fais une petite parenthèse, vous rappelez qu'effectivement, Henri de Lubac s'était constitué un petit carnet qui était plein de citations de Peggy, de Claudel et de quelques autres, et qu'il a dû laisser au noviciat, enfin dans le grenier du noviciat, au moment où il est rentré. Donc quels sont, à votre avis, dans cette première couche intellectuelle et livresque, quelles ont été les influences de ces trois auteurs que vous citez, ou de ces deux auteurs que vous citez, Claudel et Peggy, sur la pensée d'Henri de Lubac.
Dostoïevski, oui. Et Dostoïevski aussi.
Et Dostoïevski.
Mais tout peut se résumer dans un mot qui est très important pour lui, c'est le mot de drame. Je crois qu'il a compris, alors qu'il avait 10 ans, dans Crime et Châtiment, ce qu'était le drame de l'homme devant Dieu, ou même en Dieu, en réalité, parce que chez Dostoïevski, il y a cette perception-là. Et de nouveau, nous trouvons ce qu'on a dit précédemment, à savoir que ce qui l'a impressionné quand il avait 10 ans, ressort dans le drame de l'humanisme athée en 1944. Ça, c'est la maturation chez lui d'une première intuition très très forte, puisqu'il dit qu'il ne peut plus rien imaginer de Crime et Châtiment, sinon tel qu'il se l'est imaginé dans le quartier où habitait des Brotteaux. Et chez Peggy et chez Claudel, c'est la même chose. Chez Claudel, c'est évident que c'est le drame, parce qu'il a écrit du drame, mais chez Peggy également, parce que c'est vraiment le drame de la rédemption. Et c'est cela qui, comment dirais-je, est au cœur, je crois, de la pensée du père de Lubac. On ne comprendrait pas bien sa pensée si on n'apprenait ni comme un théologien, c'est pas du tout un théologien en chambre, ni comme un philosophe qui construit un système. C'est d'abord quelqu'un qui perçoit, je l'ai dit, cette relation de l'homme avec Dieu, il perçoit qu'elle est, dans cet abîme dont je parlais, dramatique, parce que l'homme n'a pas accepté ce que Dieu lui donne.
Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que Claudel et Peggy, à ce moment-là, donc on est en 1906, 1910, 1912, 13. Ne sont pas des auteurs canoniques, reconnus, extrêmement confidentiels. Donc comment est-ce que même, là où il est, comment est-ce qu'il les a vus, par quel mystère, est-ce qu'il a réussi à les lire et à considérer qu'ils étaient absolument essentiels à sa formation intellectuelle?
C'est son génie. Vous savez, il perçoit les choses, et une fois qu'il les a perçues à ce niveau de profondeur, ils font partie de son être. C'est difficile d'en dire plus parce que il a publié un petit bouquin sur Claudel et Peggy, où il dit rien sur Claudel, pratiquement, et où ce qu'il dit de Peggy ce sont des préalables à la connaissance de Peggy. Mais il y a bien quelques textes sur Peggy même, mais il en dit très, très peu de choses, comme il dit très peu de choses sur la mystique, alors que c'est le fond même de sa pensée. Mmh. Ça, c'est à la fois le génie, et je crois que les grands auteurs ont de la peine à dire ce qu'ils ont vraiment au fond du cœur.
Venons-en, si vous voulez, à cette deuxième couche de formation relative au catholicisme social. Il y a deux personnages qui apparaissent très clairement dans votre premier tome, qui est Albert Demain, d'une part, et deuxièmement, Ferdinand Brunetière. Est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux personnages, en quoi est-ce qu'ils ont eu une influence absolument déterminante sur le jeune Henri de Lubac?
Je crois qu'Albert Demain était un ami de son père et qu'il vivait dans le sillage de son père. C'est la première raison. La deuxième, c'est que Albert Demain était rallié lui aussi. Et donc, au lieu d'attaquer la République, il a tâché de rendre la République plus sociale. Je crois que c'est tout ce que je peux dire concernant Albert Demain. Concernant Brunetière...
Ça, n'oublions pas qu'Albert Demain a été député, oui, qui était extrêmement engagé, qu'il a été fondateur de l'Action catholique de la jeunesse française,
oui,
qui, et ça on l'oublie parce que grâce à vous, on revient à un certain nombre d'éléments, qui comptait jusqu'à 140 000 membres en 1912. Donc il y avait effectivement un mouvement très très important, puissant, ouais, auquel le jeune de Lubac s'est rattaché
une bonne part de la 4e République. Hein. Ce sont souvent des gens qui ont été formés par l'Action catholique de la jeunesse française, qui ont formé les hommes politiques qui sont apparus après la guerre de 40.
Donc ça c'est pour Albert Demain, qui est mort en 1914. Hein.
Ouais.
Et donc Ferdinand Brunetière, lui, qui était directeur de la Revue des Deux Mondes.
Alors lui, dit le père de Lubac, un post factum, c'est un péché de jeunesse, n'est-ce pas? Mais je crois que c'était plus que ça. Il a découvert un homme qui s'était converti au catholicisme, alors qu'il était positiviste, et qui a mené le combat dans la République pour donner aux Français un dynamisme en disant « vous avez une place à jouer dans la République ». Je crois que c'est cela qui a animé le jeune Henri de Lubac.
Alors ce qui est étonnant, c'est que Brunetière, lui, donc adhère effectivement en 1900 au catholicisme, et contrairement à ce que Henri de Lubac fera toute sa vie, à savoir expliquer, être dans l'acquisition par lui-même des propres raisons de ses croyances, Brunetière a cette formule en 1900, ce que je crois, allez le demander
bien
à Rome.
En 13, oui.
Voilà, donc d'une certaine façon, c'est un peu contradictoire avec la démarche d'Henri de Lubac, qui sera toujours dans l'explication, dans la compréhension, dans le voilà, sans s'en référer, sans laisser à d'autres le soin d'expliquer sa foi.
Oui, mais je crois quand même Brunetière, après avoir dit ça, avait exhorté les catholiques à mener une action sociale conforme à la vérité révélée.
D'accord. Donc on a vu quel était de ses lectures littéraires, enfin voilà, de ses engagements dans le catholicisme social qu'on retrouvera effectivement dans le catholicisme, voilà, qui sera très très, très important chez lui. Et puis donc venons-en à des influences plus théologiques. En 1912, dites-vous, alors qu'il a 16 ans. Il lit donc un ouvrage qui s'appelle Christus, que j'ai retrouvé effectivement, et qui est dirigé donc par Joseph Huby, et qui est un manuel d'histoire des religions avec deux personnes qui auront une importance absolument essentielle quant à sa formation, qui est le père Rousselot, qui est mort en 1914, et Léonce de Grandmaison. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, un, de cet ouvrage lui-même, et on lit avec un peu d'étonnement cette phrase dans ce livre-là, qui est absolument phrase lubacienne, s'il en est. « La grâce ne supprime pas la nature, elle la parfait. » Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, sur cette rencontre, qui est une rencontre, je dirais, où, d'une certaine façon, toutes les intuitions du père de Lubac, ou une partie des intuitions du père de Lubac, sont présentes, d'une part, et deuxièmement, sur l'influence de ces deux jésuites.
Ces trois jésuites même. Léon de Grandmaison, Huby.
Ouais, enfin, Huby, pardon. Je pensais au père Rousselot et au père Léon de Grandmaison dans la formation du père de Lubac, qui est en train de devenir père de Lubac.
Je dirais la première chose, c'est qu'il a vu dans ce volume une réponse adéquate à l'œuvre d'Orpheus de Reinach, qui estimait qu'au contraire, tout ce qui était religieux devait être pris de manière positive et expliqué à partir des réactions humaines. Il a vu là une œuvre vraiment scientifique qui permettait de montrer comment le surnaturel apparaissait et transparaissait dans la réalité historique. Ça, c'est un premier point. Il l'a vu, cette vérité-là, il l'a vu expliquée avec force par le père Rousselot, qui sera un de ses maîtres en philosophie. Parce que précisément ce sens de la présence de Dieu dans l'histoire est très vive chez le père Rousselot. Il l'a perçu également chez Huby, qui était le maître d'œuvre, puisque c'est lui qui va le guider dans sa recherche du surnaturel. Et puis, je peux reprendre la même question sous un aspect un peu différent. Il voit comment, à travers une recherche historique, on peut apercevoir comment l'Esprit Saint travaille le cœur de l'homme. Ça, c'est très présent dans toute son œuvre. Et ça l'a certainement illuminé, et ça éclaire toute son œuvre, à mon avis, cela.
Enfin, il faut préciser, et peut-être que vous pouvez nous éclairer sur ce point, que le père Rousselot, d'une part, donc auteur des Yeux de la foi, et puis aussi le père de Grandmaison, mais de façon un peu plus, n'ont pas été toujours en odeur de sainteté. Enfin,
non, certainement.
Voilà. Et donc, que tout de suite, il se met dans les pas de jésuites qui sont... marginales, je ne sais pas, enfin qui sont un peu quand même, qui vont un peu à l'encontre de la théologie dominante.
Oui, alors je prendrai les trois que nous avons cités. Mm-hmm. Léon de Grandmaison, il est un des co-auteurs avec le père Émonet d'un article qui était paru dans les études en août 1914 et qui était une critique douce mais très ferme de l'intégrisme. Et la lecture de cet article a été faite au noviciat, en août 1914, et ça a profondément marqué le père de Lubac. Deuxièmement, Rousselot a été interdit son enseignement sous les yeux de la foi a été interdit en 1920, au moment où le père de Lubac commence la philosophie, et il lui est cependant très attaché, il essaiera de publier certaines œuvres inédites de Rousselot. Et troisièmement, Huby, l'autre maître dont il dépend, est un disciple de Rousselot. Il devra abandonner l'étude de la théologie dogmatique en raison de son rousseauisme, si on peut dire, n'est-ce pas, pour enseigner l'exégèse. Alors, de fait, par ces trois maîtres, le père de Lubac se trouve un tout petit peu, à la fois, je crois, dans le courant vraiment porteur de l'esprit en Église, et en même temps en confrontation avec ce que beaucoup de catholiques bien-pensants ou intelligents, je ne veux pas faire de critiques qui rabaisseraient ceux avec lesquels il s'est confronté, n'est-ce pas, ont pensé. Et alors là, il s'est trouvé, et ça c'est le don qui est en lui, et où il perçoit les valeurs permanentes de l'Église. C'est cela que je constate chez les jeunes d'aujourd'hui, n'est-ce pas, ils perçoivent... Les jeunes chercheurs, ils perçoivent l'actualité du père de Lubac. Ça veut dire concrètement que, à travers ce que le père de Lubac a écrit, ils disent, tiens, il répond à mes questions. C'est pas du tout un homme qui a fait des disciples, qui a fait une école, mais c'est un homme qui a perçu, comme j'essaie de le montrer, la vigueur, la puissance de l'esprit. Et c'est une chose qu'on ne montre pas suffisamment. On parle de l'Église, on parle du Christ chez lui, mais il, dans les moments les plus pénibles, après le concile, notamment, il dit toujours, c'est l'Esprit Saint qui va agir dans les âmes et qui fera que les difficultés d'aujourd'hui seront surmontées.
Parce qu'il y a une question qui traverse toute son œuvre. Enfin, si on va un peu plus loin qu'uniquement cette partie-là, qui est d'une certaine façon la question du modernisme. On peut dire qu'il y a si on prend le cas des études, il y a deux articles. Il y a celui que vous avez cité du père Léon de Grandmaison, donc 1914. Et qui pose cette question-là aussi. Et puis, il y aura celle du père Danielou, soutenue aussi par le père de Lubac.
En 47,
voilà, qui pose, d'une certaine façon, la même question, celle du modernisme non réglé. À la fois, pour lutter à la fois contre une réaction trop vive, trop autoritaire, trop directive, de certaines autorités religieuses, qui, d'une certaine façon, ne prennent rien du modernisme. Et puis, la ligne suivie par le père Léonce de Grandmaison, le père de Lubac, Danielou, etc., qui cherche d'une certaine façon à sortir de cette question-là et à prendre ce qui, dans le modernisme, était positif, tout en rejetant ce qui leur semblait négatif. Est-ce que vous ne croyez pas que cette question, parce que le modernisme n'apparaît pas encore dans le père de Lubac, dans la biographie du père de Lubac, et sans doute, j'imagine, apparaîtra dans le deuxième tome, est-ce que cette question du modernisme n'est pas finalement la ligne intellectuelle centrale contre lequel le père de Lubac s'opposera, rejettera ceux qui s'y opposaient trop en rejetant toutes les sciences qui, de manière ou d'une autre, cherchaient à mieux comprendre le fait religieux.
Je dirais oui et non à votre question. Oui, dans le sens où vous l'avez dit, et non parce que, délibérément, le père de Lubac s'est toujours mis dans cette puissance, dans cette nouveauté incessamment nouvelle de l'Église, telle que le modernisme est déjà dépassé. Alors, il subit les contre-coups de ceux qui l'ont pris pour moderniste, n'est-ce pas, mais parce qu'il le comprenait dans un sens tout différent de celui qu'il agissait. Il y a de nouveau, je crois, une puissance spirituelle dans son œuvre qui fait que il n'a jamais voulu, comme toute son œuvre le montre, il n'a jamais voulu prendre comme cible les modernistes. Il a toujours été au-delà de ça.
Oui, mais effectivement, toujours en s'opposant à ceux qui s'y opposaient. Qui s'y opposaient avec une réaction un peu brutale. Enfin...
Oui, mais d'une certaine manière, ce serait, si on osait employer un mot égénien, je dirais que c'est un cas de Aufhebung, n'est-ce pas, de dépassement par au-dessus. Mais c'est pas du tout de la Aufhebung, c'est le rapport de le mystère et le paradoxe dont je vous parlais. Ça veut dire que le mystère surmonte d'emblée toutes les oppositions qui peuvent exister dans la pensée humaine et qu'il ne faut pas penser ces oppositions de manière dialectique, mais plutôt paradoxale. La pensée, paradoxe. Oui.
Sauf que là, vous avez une vision qui est une vision, je dirais, intellectuelle des idées, alors que dans le système de pouvoir,
oui, tout à
tel
fait.
Que celui-ci existait, à ce moment-là, lui, il s'est frontalement opposé, et tous les gens dont nous avons parlé.
Je dirais le contraire de vous.
Non, je vous en prie.
Il s'est.
Enfin, frontalement, c'est peut-être effectivement, oui.
Lui, je crois qu'il ne s'est pas tellement opposé, mais il a trouvé de l'opposition à ces positions-là. Je crois que l'opposition est venue. De ceux qui ne pouvaient pas accepter une théologie qui était quand même intégriste, quoi.
Je voudrais terminer, parce que vous terminez là-dessus, sur les 4 ans et demi donc, que le père de Lubac a passé sous les drapeaux. Hein. Donc vous donnez moult détails et moult éléments qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'il en est. Enfin, passons effectivement ses promotions successives, ses examens qu'il a réussi, et apparemment les seuls examens qu'il a réussi, disait-il.
Voilà.
Et donc vous faites de lui un poilu paisible et joyeux. En quoi est-ce que la guerre lui a apporté quelque chose dans sa compréhension humaine? En quoi est-ce que la guerre dont il parle pas, enfin dans son œuvre, sauf à ce que, voilà, qu'est-ce qu'elle lui a apporté ou qu'est-ce qu'elle a apporté à l'œuvre qui va venir après?
Mais la première chose que j'ai voulu montrer, c'est que cet homme qu'on prend toujours pour un intellectuel était d'abord un homme et qu'il a passé 4 ans et demi à l'armée sans avoir jamais. Il a eu la blessure, mais pas d'engelure, pas de maladie, et qu'il était vraiment très camarade avec tous ses compagnons, apprécié par ses chefs. C'était un homme. C'est la première chose que je voudrais bien voir. Et ça, il l'a montré parce qu'il était solide. Il est mort en 95 ans. La deuxième chose qui a son importance, c'est que cette guerre atroce, dont il dit quelque chose, jamais à ses parents, il l'a portée en Dieu. Il a souffert, comme les autres, de ces bombardements épouvantables, n'est-ce pas? Bon. Mais si je dis joyeux, c'est peut-être un peu de lyrisme, mais certainement qu'il était paisible et qu'il prenait en compte toutes les souffrances de ses compagnons. Et la troisième chose que je veux dire, c'est qu'il a appris à connaître le peuple. Il venait d'un milieu patricien, alors il était social, mais c'était quand même... Il allait dans les patronages. Mais là, il a connu ce qu'était la France profonde. Et c'est là qu'il l'a conçu sur les chemins de Dieu. Mmh. C'est en conversant avec un instituteur athée qu'il s'est rendu compte de ce qu'était l'athéisme dans une âme dont il disait « mais au fond, il croit en Dieu ». Mais il croit ne pas croire.
Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il est ni va-t-en-guerre.
Non, pas du tout.
Ni anti-Bosch, entre guillemets.
Ouais, ouais.
Ni non plus patriote exalté.
Non, tout à fait, mais patriote cependant.
Patriote, mais c'est pour ça que je me permettais de rajouter exalté.
Oui, vous avez raison.
Donc je veux dire, contrairement à Peggy, contrairement à d'autres, enfin, qui étaient dans la même situation. Donc effectivement, c'est assez. Enfin, il n'était pas contaminé d'une certaine façon par une certaine forme d'exaltation de l'époque.
Tout à fait.
Qui faisait en sorte que cette guerre allait d'une part à la dernière, enfin bon, et deuxièmement, allait pouvoir permettre de mettre en avant toutes les valeurs patriotiques, anti-allemandes, etc.
Il acceptait de donner sa vie pour Dieu et pour la patrie, et deuxièmement, il voyait les dommages profonds que la guerre avait causés dans les âmes, et combien la France sortirait abîmée de cette guerre. Ça, il en avait une conscience très vive.
Côté Père Chantraine, merci beaucoup pour ce premier tome, donc qui fait 660 pages sur les premières années, donc 1896-1919, donc du père de Lubac. Et puis nous attendons avec impatience donc les 3 suivants. S'il se limite à 3, parce que la traversée du siècle va quand même être impressionnante. Nous attendons donc les 3 prochains pour pouvoir, si vous l'acceptez, vous recevoir pour mieux comprendre quelle sera ou quelle a été l'évolution intellectuelle du père de Lubac qui a marqué à la fois le siècle catholique, mais on peut le dire autrement, le siècle intellectuel, et donc qui a laissé sa trace dans le paysage intellectuel français et si ce n'est même catholique. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci.